États, les États de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédonces petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres du...
Non, 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 non.
Mais que diable allez-vous faire dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi d'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement, vous dites galère!
Ah, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois d'octobre de Scène de vie, vie de scène, l'émission en coproduction avec le Tangram qui prendra encore le temps ce mois-ci de vous parler de spectacles vivants. Bonjour Caro, bonjour Nathalie.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Alors au sommaire de cette émission, nous parlerons poésie.
Et oui, nous avons à nos micros comme invitée Charlène Damour, qui est directrice de la Factory, maison de poésie, on va dire sur l'île du Roi. Exactement.
Maison de poésie de Normandie, bonjour.
Voilà. Et nous parlerons avec Charlène, eh bien, de poésie, mais aussi des artistes que vous accueillez en résidence dans votre lieu.
Nous parlerons également musiques actuelles et musiques régionales actuelles.
Eh bien, Caro.
Absolument, avec donc la gare aux musiques de Louviers, où nous aurons un invité...
Guillaume Poignard.
Poignard, pour nous parler des pop-up qui commencent aujourd'hui.
Exactement, ce sont les sorties de résidence, hein, mais nous aurons l'occasion d'y revenir, bien entendu. Nous ferons un agenda non exhaustif de ce qui nous a attiré notre attention sur le mois d'octobre. Le traditionnel extrait de film dont nous gardons le mystère jusqu'au bout car nous faisons du suspense dans cette émission. Mais tout de suite, sans plus attendre, nous avons une autre de nos traditions. C'est le son d'ambiance, le micro-baladeur.
Nathalie, tu m'as donné ta clé?
Mais ça remonte à... 55 ans.
Bonjour, messieurs, dames.
On faisait ça au château.
Oui, donc moi, j'habite à côté.
Vous aussi, monsieur, c'est bien. Si vous parlez bien, si vous faites des jolis poèmes. Moi, je fais partie donc de la radio Principe Actif et je fais un reportage à la demande de Florence, qui fait partie de votre réseau, sur le colloque d'aujourd'hui. Voilà, l'école pour tous, le droit. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, je me présente. Je fais partie du Principe Actif de la radio locale et je fais un reportage donc sur toute votre journée, tout votre colloque.
Merci.
Voilà. Mais c'est important. Je découvre. Hein. Je suis pas du tout. Je suis totalement novice et ça me parle vraiment déjà. Est-ce que quelqu'un veut dire des petites choses par rapport à ce matin ou ce qui va se passer? Qu'est-ce que...
Alors moi je suis Élise Sagert et je suis la présidente de l'association Préhendice 276. Nous on intervient déjà sur le territoire de l'Eure et de la Seine-Maritime. Ce qui était important aujourd'hui pour nous, en tout cas qui faisons partie du réseau inclusif, c'est plutôt de...
Alors JC, où as-tu laissé traîner ton micro?
Alors cette fois-ci, c'est pas moi qui ai laissé traîner mon micro. On entendait Marie-Claude qui a été faire un reportage la semaine dernière. Alors Marie-Claude, c'est une de nos journalistes du groupe Senior, en fait. C'est un groupe de 8 à 10 seniors, géométrie variable, hein, qui ont une émission mensuelle sur notre antenne qui s'appelle De vous à nous, on vous dit presque tout. Mais c'est pas assez grand pour eux, en fait, cette émission. Donc en fait, ils font des chroniques le matin lors des matinales du vendredi matin avec Vincent. 60. Ces seniors font également des reportages. Dans ce qu'on vient d'écouter, c'était Florence et Marie-Claude qui sont partis sur un colloque de l'école inclusive. Elles sont parties se renseigner, comme on l'entendait, Marie-Claude n'y connaissait pas grand-chose finalement en école inclusive, mais ce qu'elles ont, c'est qu'elles sont curieuses en fait, aussi bien Florence, Marie-Claude que leurs autres camarades d'ailleurs, ils sont très très curieux. Et en fait, on les a sur plein de sujets, ils viennent découvrir avec une technique journalistique qui n'est pas de l'école de journalisme, mais qui est... moi, je trouve tout aussi efficace, celui de l'immersion. Elles sont retraitées, donc elles ont passé la journée sur le colloque, donc elles ont découvert le colloque, toutes les interventions de toutes les personnes qui sont venues s'exprimer. Et puis ensuite, elles ont été interviewer un peu tout le monde. C'est leur technique aussi, c'est d'aller attraper tout le monde pour discuter le bout de gras. Et là, on entendait cette minute qui précède l'interview, en fait. Souvent, quand on va faire des sujets, on diffuse l'interview. L'auditeur pourrait s'imaginer que tout de suite, tout était prêt, que tout était fluide et se passait naturellement, mais pas du tout. Et quand on part en reportage, d'autant moins. Et là, on entendait Marie-Claude qui, avec son enregistreur en route, parce que c'est une technique aussi, il faut enregistrer en fait dès le début, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer d'intéressant et on peut pas arrêter les gens pour dire « Attendez, je lance mon enregistrement ». Donc, elle enregistre dès le début, elle va dans la foule, elle discute, voilà, vous voyez, elle se présente plusieurs fois, c'est ce qu'on entend. Et ça, moi, ça m'a fait sourire quand j'ai entendu cette partie-là, parce qu'on l'a tous vécu quand on fait des reportages chez Principe Actif ou ailleurs d'ailleurs, on a tous vécu ce moment où on se présente 10 fois et puis les gens, on leur attire pas attention, certains nous évitent même parce qu'ils ne veulent surtout pas parler dans le micro, non mais c'est vraiment ça, puis on est un peu maladroit, on sait pas trop, on se glisse dans des conversations qui sont déjà en cours, on entendait là dans l'extrait sonore que ça rigole à côté, donc on navigue et puis un moment, on trouve quelqu'un et c'est là-dessus que se terminait l'enregistrement qu'on écoutait. Marie-Claude est tombée sur une personne d'une structure qui avait des choses à dire. Voilà. Mais on sent tout le flottement et toute la maladresse des fois qu'on a quand on est reporter à chercher le sujet, à chercher quelque chose. Et voilà, je trouvais ça sympa de pouvoir l'écouter. Vous pouvez écouter l'intégralité de ce reportage, justement. Il est passé ce matin en matinale. Donc, Marie-Claude et Florence étaient avec Vinci ce matin sur la matinale. Il a été diffusé ce matin en grande partie. Et vous pouvez le retrouver en podcast dans Bulles et reportages. Et là, il est monté en reportage en un seul tenant. Et on vous invite vraiment à aller réécouter ce reportage parce que l'école inclusive... parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est et c'est hyper important parce que tous les enfants y sont confrontés parce que l'école inclusive c'est quoi? C'est inclure dans l'école ordinaire des enfants qui auraient des particularités et donc finalement ça concerne aussi bien les enfants qui ont des particularités que les enfants ordinaires parce qu'ils sont tous, ils vivent tous dans le même monde et dans la même école, donc c'est hyper intéressant et je me permets d'insister lourdement et Nathalie tu me contrediras pas bien entendu.
Et non c'est voilà, aujourd'hui l'école inclusive c'est une obligation hein, de toute façon et c'est voir aussi comment travailler ensemble, coordonner l'ensemble des acteurs du territoire sur ce sujet, ces questions et quelle méthode, quel outil à proposer, adapter au niveau des élèves, mais aussi sur la formation des enseignants, par exemple.
Voilà. Je crois qu'on a bien fait la retape pour ce fameux reportage qu'on trouve dans Bulles et reportages, école inclusive, extrait du colloque qui s'est déroulé cette semaine. On écoute la première pause musicale. On avait dit qu'on parlerait poésie, écriture. Le morceau, il correspond tout à fait au thème. C'est Gaël Faye avec « Seul et vaincu ».
Vous finirez seuls et vaincus, sourds aux palpitations du monde, à ces hoquets, ces hauts, ces bas, ces haussements d'épaules veulent, au recensement des ossements qui tapissent le fond des eaux. Vous finirez seuls et vaincus, aveugles aux débris tenaces, de ces vies qui têtues s'enlacent, de ces amours qui ne se lassent, même lacérés de se hisser à la cime des songeries. Vous finirez seuls et vaincus, grands éructants rudimentaires, insouciants face à nos errances, sur la rude écale de la terre, indifférents aux pulsations qui lâchent laisse à l'espérance. Vous finirez seuls et vaincus, car longue, longue est la mémoire des pieds, des peaux, des au revoir, et de ces temps itinérants où devisant et divisant, vous créez un monde en noir et blanc. Vous finirez seuls et vaincus, vos cris, vos corps et vos credos, autorité en toc et broc, ne sauront vous sauver de rien, l'éclat de nos vies entêtées éblouira vos en-dedans. Et vos enfants joyeux et vifs feront rondes et farandoles avec nos enfants et leurs chants, et s'aimant sans y prendre garde, vous puniront en vous offrant des petits enfants chatoyants. Vous finirez seuls et vaincus, car invincible est notre ardeur, et si ardent notre présent, incandescent notre avenir, grâce à la tendresse qui survit à ce passé simple et composé.
Why you holding on to your bones? Holding on to what you know? We won't make the same mistakes. Stays how we clean my face. Why you holding on to your bones? Holding on to what you know? We won't make the same mistakes. Stays how we clean my face. Why you holding on to your bones? Holding on to what you know. We won't make the same mistakes. Stakes are how we clean my face.
Vous finirez seuls et vaincus.
Gaëlle Faye, seul et vaincu, un choix de Caro. C'était un très bon choix, Caro. Tu l'avais tenté le mois dernier, puis on avait une autre actualité, mais c'était un très bon choix tout de même. Voilà. Nous sommes avec Charlène Damour, directrice de la Factory, maison de poésie en Normandie.
De Normandie. Nous sommes la maison mère de Normandie.
D'accord. La Factory, un endroit en lui-même poétique déjà, hein, sur l'île du Roi.
Exactement.
Qui se trouve à entre Val-de-Reuil et Léry. Administrativement, c'est Val-de-Reuil.
Exactement.
Mais,
l'île appartient à Val-de-Reuil, mais l'île est située à Léry.
Voilà. Et l'île est. Bah, de toute façon, c'est une île, hein, donc du coup, il y a la frontière tout autour. Un très bel endroit consacré à la poésie sous toutes ses formes, mm-hmm. parce que cette fameuse poésie, on le disait il y a quelques instants, elle peut être musicale, elle peut être écrite, mais elle peut être plus subjective, cette poésie. Justement, comment la Factory appréhende cette notion de poésie?
La poésie est vaste et il y a autant de définitions que de sortes d'écritures de poésie. Donc nous, on va... la définition de la poésie dans le dictionnaire, c'est l'art d'évoquer, de suggérer les émotions, les sensations par le son, par le rythme, par l'harmonie. Donc on va vers ça. Aujourd'hui, on a vraiment une multitude de poètes et de poétesses qui nous proposent des écritures très différentes. Donc, on va vers ce qu'on nous propose et on est très curieux et on va dans la découverte de la poésie. Et notre idée, c'est surtout de la faire découvrir aux autres parce qu'elle est aujourd'hui pas encore assez connue.
On pourrait vivre en poésie, que ce serait pas plus mal finalement.
La poésie, c'est un art de vivre, tout à fait. Quand la poésie, quand on rencontre la poésie, c'est un fil conducteur dans la vie, effectivement.
Sur la Factory, alors il y a la diffusion de la poésie, mais c'est un lieu, quand je disais on vit en poésie, c'est un lieu aussi d'accueil poétique, et c'est aussi un lieu d'atelier. Comment on peut parler de tout ça, finalement? Comment on peut présenter finalement cette Factory?
On a pas mal de choses chez nous. Alors déjà, c'est vrai que c'est une île, c'est un grand bâtiment de 1902, qui était une ancienne usine de papier, qui a été aussi une usine de mine de crayons, donc il y a du sens à ce que ce soit une maison de poésie.
poésie aujourd'hui, d'écriture, de lecture. C'est un lieu ressource autour de la poésie. On a une poétothèque sonore, une poétothèque avec plus de 3000 références. On a un poétobus, on a une librairie. Donc on veut être un lieu vraiment autour des mots qui... Voilà, n'importe qui peut venir chez nous et découvrir la poésie et trouver le sujet qui l'intéresse. On est un lieu de résidence d'écriture et de création autour des poètes. Donc on a 34 poètes qui viennent chez nous en résidence. On a des partenaires pour ça, parce que c'est pas assez grand. Pourtant c'est grand, mais on n'est pas encore assez grand pour accueillir tout le monde. À la suite de ces résidences, on a des sorties de résidence, donc ouvertes à tout le monde. Des lectures, des échanges, des rencontres. Nous sommes aussi... alors on rythme beaucoup notre saison avec de l'action et de la médiation culturelle. Dans les établissements scolaires, les hôpitaux, les centres sociaux, en détention. Et on va là où on nous demande d'aller, et on a de plus en plus de demandes. Comme les demandes de résidence, on a eu plus de 200 candidatures, donc il y a un vrai besoin auprès des poètes de travailler, d'avoir des endroits pour se ressourcer, écrire, s'inspirer. Et l'Île du Roi apporte tout ça. On a aussi un prix Copo, un prix décerné à un recueil, on amène la lecture, l'écriture dans les écoles, enfin voilà, on fait beaucoup, beaucoup de choses.
Oui, et quand vous disiez maison de poésie de Normandie, ça veut dire que sur le territoire, vous êtes l'unique ou il y a des collaborations ? Enfin, est-ce que justement, pardon, ce sont des lieux qui existent par ailleurs, sous d'autres formes, mais comment s'émaille en fait cette poésie sur le territoire normand à travers les structures de diffusion qui portent ce projet, ces projets.
Nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres maisons. Il y a une maison de poésie à Caen, à Rouen, à Cherbourg. Il y a de plus en plus de structures qui s'ouvrent, même en France, dans les pays francophones. Mais c'est vrai que nous, on existe depuis 9 ans. Donc, je crois qu'on est un peu à l'initiative de tout ça. Après, il y a plein d'autres lieux, hein. Mais on se veut être maison de poésie de Normandie. On le défend parce que on est conseil, on est dans le partage, dans la transmission aussi, et on a réussi à créer des partenariats avec d'autres lieux de poésie. Et puis ça se développe de plus en plus. Il existe une fédération des maisons de poésie. Donc voilà, ça avance, ça grandit. On a envie en tout cas d'apporter notre soutien à tous les gens, à toutes les structures qui voudraient s'épanouir dans la poésie. Parfois, il y a des gens qui viennent chez nous, des résidents qui disent « Moi aussi, je veux une maison de poésie. » Eh bien, on les incite « Vas-y, monte ta maison de poésie, on est là, on t'aide si tu veux. » Il suffit d'avoir un petit endroit et l'envie, tout le monde peut avoir sa maison de poésie.
Oui, vous avez l'expertise en fait de votre fonctionnement et de votre création depuis...
C'est ça, on a une expérience.
Que vous faites partager et que vous accompagnez.
C'est ça, parce que quand on a commencé il y a 9 ans, on nous a regardé avec des grands yeux, comment ça? Maison de poésie, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a pas de case poésie, il y a une case théâtre, cirque, musique, danse, mais poésie, non.
Oui, même à travers le ministère, même au travers du ministère de la culture, non, ça ne se rattache pas forcément.
Il n'y a pas. Donc on est en train de justement d'éveiller là-dessus en se disant peut-être que ça pourrait aller vers ça, avoir une case poésie.
Et ces lieux, c'est destiné à des professionnels, c'est-à-dire des écrivains professionnels, des poètes professionnels, ou c'est aussi ouvert à tout un public qui voudrait s'initier à la poésie par le biais d'ateliers d'écriture, pas simplement par le biais de sorties de résidence. Comment ça se passe?
Exactement, on est ouvert à tout le monde. Alors, à la base, les résidences sont des professionnels, oui, des auteurs, dont c'est vraiment le métier. Après, certains, parfois, ont des métiers à côté, parce que vivre de la poésie, c'est encore difficile. C'est pour ça qu'il faut qu'on développe les lieux autour de la poésie, pour faire vivre nos poètes. Par contre, on est aussi là pour partager, comme je disais, et être conseil. Les gens qui commencent à écrire, qui ont besoin d'avoir des avis sur les mots, sur ce qu'ils font, et on met en place des ateliers d'écriture, tout à fait, une fois par mois avec les poètes qui viennent en résidence chez nous, et qui est vraiment ouvert à tous les publics à ce moment-là. Donc on est, oui, bien sûr, on a envie que, on n'est pas entre nous, entre soi, on fait un peu de poésie, c'est pas ça l'idée. On a envie que chacun, voilà, vienne, on a un échange, on est un lieu très chaleureux, et tout le monde peut venir, donc, demander conseil.
Oui, parce qu'entre écouter de la poésie et écrire, c'est un propos complètement différent.
Tout à fait. On ne peut pas écrire de la poésie sans la lire aussi. C'est absolument. L'un va avec l'autre. Donc avant tout, nous, on est là aussi pour apporter ça, maîtriser le langage pour pouvoir ensuite réécrire toutes nos sensations, nos émotions, tout ce que ça implique.
Mais j'aime bien cette notion totalement d'ouverture. C'est vrai que dans votre choix de ne pas avoir ce parti pris d'être uniquement sur des auteurs ou des poètes, mais d'ouvrir aussi à tout à chacun cette liberté de création, que ce soit vraiment dans les deux sens, est fort intéressant. Ça ouvre sur de nouveaux publics peut-être, ou d'une relation au public sur lesquels vous voudriez aller. Donc là, je rebondis plus vers... comment médiatiser ? Donc, il y a tout, en effet, le soutien aux artistes, aux poètes. Mais après, tout le travail des publics, d'appréhender cet univers, voilà, c'est un grand...
C'est aussi un combat, en fait. Parce que on aide effectivement les poètes, les poétesses, les artistes autour de l'écriture, mais c'est aussi un combat avec les mots. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a besoin d'ouvrir les esprits. On a besoin d'amener une réflexion sur le monde, sur ce qui nous entoure. Donc, on va dans les écoles, vers les publics, pour ça aussi, lire, écrire, échanger et vraiment ouvrir vers ça. Donc, non, on ne se renferme pas, on est vraiment dans ce partage, dans cette transmission.
Et puis, elle peut prendre des formes surprenantes aussi, cette transmission. Quand on parle poésie, ce n'est pas forcément un lecteur ou un auteur face à un micro, droit debout. Mmh. En fait, il y a plein de formes. Et vous les développez, la Factory, toutes ces formes un peu surprenantes. C'est aussi se faire cueillir par la poésie, votre touche.
Il y en a pour tout le monde. La poésie contemporaine, comme c'est dit, elle est vivante, la poésie, aujourd'hui. Il y a des jeunes poètes, poétesses, dans la performance aussi. Mmh. Ce n'est pas que de la lecture. C'est fini, hein, le vieux poète avec sa grosse barbe et son écharpe rouge. Aujourd'hui, c'est fun, ils sont impliqués. La poésie, elle n'est pas que contemplative. Elle est féministe, elle est écologique, politique, elle est soucieuse des laissés pour compte. Elle défend, elle veille et elle éveille. Donc, on a vraiment toute une panoplie d'écritures. C'est pour ça, quand je vois les gens qui me disent « Ah, moi, la poésie, j'aime pas. » Non, en fait, tu ne la connais pas, c'est ça. C'est parce qu'elle est trop inconnue encore aujourd'hui. Oui. Mais vraiment, il y en a pour tous les goûts. J'ai des petits textes que je peux vous lire. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte à quel point c'est vaste. Mais oui, on défend ça, bien sûr. Et puis, les arts, se mélangent aussi à la poésie aujourd'hui. Donc, on a cette chance. Et c'est d'une richesse énorme.
Avec une poésie qui n'est pas forcément la classique, avec des rimes croisées, des rimes droites ou autres. Je me souviens être tombé sur un blog, alors je ne sais plus comment il s'appelle, c'est dommage, mais ça me reviendra peut-être, de poésie, ils appelaient Street Poet ou un truc comme ça, avec des textes qui s'étaient dégagés des contraintes alexandrins et compagnie, et qui étaient tout aussi puissantes à la lecture et à l'émotion.
Il existe la poésie classique et la poésie contemporaine. Aujourd'hui, on casse tous les codes. Il n'y a pas de ponctuation, l'orthographe, c'est pas grave. Et on joue avec les mots, on les invente également, parce que la langue est tellement riche. Il existe plus de 75 langues de France, entre la langue des signes, la langue sur les îles, les dialectes. Donc pourquoi ne pas tout transformer et jouer avec. On a une poétesse, Hortense Rénal, qu'on adore, qui travaille, qui fait beaucoup d'ateliers d'écriture avec les enfants, justement, et qui travaille là-dessus. Et à chaque fois, les enfants lui disent « Mais madame, ça n'existe pas, ce mot ?» Eh bien, justement, inventons-le, donnons-lui une définition. C'est ça qui est formidable avec la langue française, parce qu'elle est, très expansive, voilà.
Oui, moi, je voulais parler de l'après. L'édition, les libraires, les médiathèques, enfin, est-ce que les artistes que vous accompagnez, on peut les retrouver après, puisque c'est un moment T de création lorsque vous les accueillez, mais après ?
Bien sûr. Alors, c'est vrai que chez nous, pour faire une résidence, on demande aux poètes d'être édité au moins une fois, d'avoir au moins un recueil édité. Nous, on est là aussi pour les conseiller. Donc, on est en relation avec beaucoup de maisons d'édition autour de la poésie. Il en existe énormément aujourd'hui. Donc, parfois, on est là aussi pour transmettre, créer du lien. Et les poètes qui viennent chez nous écrire, généralement, oui, ils ont un projet d'édition avec une maison d'édition ou alors ils sont à la recherche. Donc là, on peut essayer de les aider. Et puis, on a toujours, sur la saison d'après, la publication de ce qu'ils ont écrit chez nous. Donc, on est très heureux de voir, en collaboration avec la Factory, Paris. Donc oui, il y a toujours du lien. Et puis c'est les gens qui viennent chez nous, c'est une famille, ça devient une famille en fait. C'est vraiment, il se passe quelque chose chez nous. On n'est pas là juste à donner des clés. Il y a une rencontre, il y a une connexion, on passe du temps. Ils viennent pendant presque 15 jours chez nous par mois. Mais on est avec eux tout le temps. On les accompagne, on discute, on échange, on refait le monde. Donc, il y a une suite, bien sûr. On reste jamais sans se redonner de nouvelles. Et puis, on se recroise sur les marchés de la poésie, sur des forums, sur des salons. Donc, on reste toujours, toujours en lien. Après, l'édition, les maisons d'édition commencent à... Voilà, il y en a de plus en plus, heureusement. Mais... c'est pas avec l'édition que les poètes peuvent vivre, hein. C'est pas là où c'est le plus intéressant pour eux financièrement. Mais c'est vrai que c'est une finalité, donc c'est important de voir ces mots dans un livre.
On écoutait Charlène Damour, directrice de la Factory, maison de poésie normande. On écoutait, finalement, ça nous plonge en réflexion. Là, on n'était pas hyper réactif.
Ça sert à la poésie. Mais c'est avoir ça une aussi. Réflexion.
On l'évoquait tout à l'heure. C'est une histoire de rythme en fait, la poésie. Et la poésie, elle peut être visuelle aussi, sans texte même. Enfin, c'est tous ces moments de poésie qu'on peut attraper dans la nature, dans la contemplation justement, ces choses. Sur la poésie, vous évoquiez il y a quelques instants que vous étiez venu avec quelques textes.
Oui.
Moi, je serais d'avis, si ça va à mes collègues animatrices de cette émission, qu'on puisse écouter un texte et puis voilà, quoi. Alors, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet, d'accord. Parce qu'on en parle, mais finalement, on a beau en parler. C'est bien d'en écouter un petit peu.
Et bien sûr. J'ai choisi. Alors voilà, j'ai fait une petite sélection. J'ai choisi Zaatar de Sofia Karampali Farhat aux éditions Bruno Doucet, une jeune autrice gréco-libanaise qui est arrivée en France il y a une dizaine d'années. J'explique quand même, hein, et qui raconte un peu voilà sa vie au Liban, le fait d'arriver en France. C'est très poignant, c'est très beau, et elle a reçu le prix Copeau des lycéens l'année dernière. Donc voici un petit passage. Je suis née sous les bombes, je mourrai sous les mots. Qu'il pleuve sur moi des torrents infinis, je me redresserai, mouillerai mes cheveux et danserai encore. Ça, c'est un petit passage comme un autre qui fait résonance. Grenade. Nom féminin. Sens 1, botanique. Fruit de couleur rouge, issu du grenadier. Sens 2, militaire. Petit projectile explosif lancé à la main. Sens 3, poésie. Ville andalouse chantée par Lorca. Quelle ironie.
Merci Charlène Damour pour ces petits textes. Ça donnerait envie d'y rester en fait dans ces textes.
Moi, j'en lirais bien encore, j'en écouterais bien encore un petit.
Alors, ce que je propose, parce que histoire qu'on déroule notre conducteur, parce que on a cette tendance à l'oublier en fait, une ligne de conduite durant cette émission.
Moi, je suis là pour remettre dans le cadre.
et donc, je vous propose une pause musicale proposée également par Charlène, issue de la programmation 2024-2025, mais ce sera au mois de mai 2025, proposée. C'est Gavroche. Peut-être quelques mots sur Gavroche, Charlène, oui. Avant que nous l'écoutions.
Eh bien, chanteur entre le slam et le hip-hop, avec une plume magnifique, et c'est aussi quelqu'un sur scène qui est très généreux. Il est là, il est vraiment dans le partage. Et cette chanson que justement j'ai sélectionnée, elle parle à tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné, parce que je pense que même n'importe qui n'est pas sensible à la poésie ou à l'écriture va s'y retrouver dans cette chanson.
Le bout de la table, c'est de Gavroche.
Je me souviens du bout de la table comme d'un fragment d'éternité. C'est Noël, j'ai 4 ans, je suis le plus jeune de la famille. À l'autre bout, en face de moi, mon arrière-grand-mère est figée. Elle n'entend plus que des yeux. Et semble sourire sans béquille. Entre elle et moi, il y a les grands, qu'elle continue d'appeler les jeunes. Ils parlent vite, ils parlent fort, je ne comprends pas tout ce qu'ils se disent. Tonton Daniel a l'air d'être drôle, il fait des blagues quand on déjeune. Vous devriez voir comme il est fier quand sa femme rit à ses bêtises. et à ma mère, un peu plus loin, qui parfois jette un œil sur moi. Elle trouve toujours une bonne excuse pour venir jusqu'au bout de la table. Une viande un peu dure à couper, un pichet d'eau trop lourd pour moi. À cette époque, j'étais un roi, assis sur un trône éjectable. Le bout de la table n'est pas très loin, mais il s'éloigne. L'arrière-grand-mère me manque un peu, et mon grand-père a pris sa place. Ses mains voyagent, elles papillonnent, prennent des détours quand elles se joignent. Personne ne semble s'en rendre compte, à part peut-être le temps qui passe. Maintenant que je comprends ces blagues, tonton Daniel me fait marrer. Et je crois qu'il n'est vraiment heureux que quand sa femme rit à pleines dents. Ça se fend la gueule, ça boit des coups, tout le monde trinque à la légèreté. Et pendant ce temps, le bout de la table s'efface derrière un tremblement. La place du roi. En face de lui, je vois sa grand-mère faire de ma mère une vieille dame. Mais c'est la vie, comme dit Daniel, il faut garder le sens de la joie. Pourtant, parfois, l'humour d'un homme ne dure que le temps d'un rire de femme. J'ai 60 ans et l'intention de profiter de chaque image. Mon petit-fils au bout de la table qui galère avec son steak. Ma mère qui livre un combat contre un pichet trop lourd pour son âge. Il y a le bout de la table qui m'attend, mais j'ai plus peur de me battre avec. Je me souvenais bien de cette place comme d'un fragment d'éternité. Je suis le plus vieux, mais qu'importe l'âge, je suis bien, c'est Noël. À l'autre bout, en face de moi, un petit garçon semble très intrigué par mes mains qui voyagent malgré elles. Entre nous deux, il y a les jeunes qui parlent fort, qui parlent entre eux. Il y a un petit neveu qui a l'air d'être drôle, il fait marrer toute la famille. Ce brouhaha d'éclats de rire que je n'entends plus qu'avec les yeux. Je vais continuer d'en profiter et je vais sourire sans béquille. Ça fait 10 ans que je m'assois ici et je m'y sens bien à chaque Noël. Je crois bien que j'ai passé toute ma vie à jouer aux chaises infidèles. J'ai mis une vie pour m'asseoir là et prendre conscience du temps qui passe. Il faut une vie pour s'asseoir là et accepter de céder la place.
Le bout de la table de Gauvrache, une proposition de Charlène Damour, directrice de la Factory, maison de poésie normande sur l'île du Roi. C'est entre Val-de-Reuil et Léry, hein. Forcément c'est ce qui fait la frontière vu que c'est une île.
Entourée de l'Eure.
Entourée de l'Eure. Et voilà, et donc ça c'était un choix musical Gauvrache qui était...
C'est beau, on est d'accord.
Ben oui, non, mais voilà, c'est magnifique. Ça nous a fait penser, enfin moi ça me fait penser en tout cas à quelques autres artistes que nous avons dans le coin, dans cette plume de belle écriture. On faisait le lien tout à l'heure avec Gaëlle Faye qui écrit également différemment. Je suis obligé de penser à Ben Herbert Larue, hein, qui est un proche aussi de la maison de poésie, qui est proche de la Factory. Ça me fait penser à tout ce type d'écriture ce sont des chansons qui pourraient se lire en fait.
Ouais, complètement. La seule différence, c'est vrai que c'est juste pas publié dans un recueil, mais c'est la différence entre les musiciens, la musique et la poésie, les poètes.
Alors, je voulais rebondir sur un de vos propos tout à l'heure, quand vous disiez qu'en fait, la poésie, c'est aussi un art de vivre au quotidien. Voilà, c'est pas juste on va lire un poème ou écouter, ça fait partie d'un art de vivre. Est-ce que vous pouvez développer cette notion de dans la vie au quotidien? Ça veut dire quoi? Comment ça s'incarne, se concrétise? Un exemple?
C'est...
On le comprend pour les poètes, mais
oui.
pour tout à chacun.
Eh bien, c'est prendre le temps en fait d'observer, de penser. On est dans une société où on doit toujours être dans l'action, en rapidité, et on ne lève plus les yeux. Et ça, moi, ça fait partie de ça. On regarde plus autour de nous, dans le détail, les lumières, les couleurs, mais aussi sur ce qui se passe dans notre société. Quand je disais tout à l'heure que la poésie veille, c'est qu'elle parle de sujets de société comme l'écologie, etc. Et donc, ça permet d'avoir une réflexion. De toute façon, c'est que voilà, la littérature en général, la poésie, quand on lit, on apprend un certain langage, et ce langage permet de construire sa pensée et d'avoir une vraie réflexion sur ce qui se passe autour de nous, de pouvoir mettre des mots sur nos émotions, sur nos sensations. Et ça permet d'avoir un vrai esprit critique. C'est pour ça que c'est un quotidien, de s'imprégner vraiment de la poésie. Et avoir un esprit critique, c'est aussi être en alerte sur le monde d'aujourd'hui, sur peut-être les injustices, sur les différences, sur l'oppression. Donc c'est là où c'est important de s'immerger totalement dans la poésie et de faire qu'elle ne fasse que sens avec vous. Elle ne fait qu'un avec vous. Et la poésie, alors comme on disait tout à l'heure, elle est partout et on peut vraiment la décrypter partout. Et puis, il y a une bienveillance. Alors, elle veille, et moi, pour moi, la poésie me permet d'aller vers le monde, d'être ouverte et d'avoir voilà une réflexion. Et c'est ce que j'essaie de divulguer auprès de tous les gens, le public, les jeunes, les moins jeunes. Ouvrez-vous, vraiment. Mais quand je dis ouvrez-vous, l'esprit, les yeux, regardez tout ce qu'il y a autour de nous. Comment je peux répondre à cette question autrement?
Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, puisque c'est aussi donner un peu de soi. C'est pas s'ouvrir simplement au monde, parce qu'on peut s'ouvrir au monde en restant en retrait et en observateur, mais pratiquer la poésie, au-delà du fait de l'écouter et donc de se sentir pas en empathie mais en résonance avec ce qui est dit, c'est aussi lorsqu'on écrit et lorsqu'on se met à pratiquer une mise en danger de l'intime quelque part.
Oui, c'est sûr, c'est pas évident d'écrire, de partager. Et le poète d'ailleurs, quand il écrit, c'est pour lui, c'est pour les autres, tout à fait. Il veut passer un message et il s'offre totalement, il s'ouvre totalement. C'est le champ des possibles en fait, la poésie. C'est le champ des possibles. C'est une liberté.
Et qui dit liberté dit aussi un autre rapport au temps.
Oui.
C'est aussi se dégager, d'avoir cette conscience de se...
Prendre le temps.
De prendre le temps et de se dégager d'une autre façon de se le prendre, ce temps.
Il y a un auteur que j'aime beaucoup, un poète qui s'appelle Pierre Soletti, qui fait un film là, qui va sortir bientôt, et ça s'appelle « Je ne travaille pas et j'en ai fait mon métier ». Ça veut tout dire.
Il y a comme ça un mouvement, en effet, de ceux qui préconisent la paresse. Il y a eu tout un mouvement littéraire, justement, le droit à la paresse, mais dans le côté positif, en fait.
C'est ça.
Et pas stigmatisant, comme on peut avoir aujourd'hui dans notre société, avec beaucoup d'injonctions.
Oui, il y a toute une réflexion autour de ça, du travail, qui lessive le cerveau, qui lessive la créativité. Donc, prendre conscience, en tout cas, si tu travailles, prendre conscience de ce que tu fais. Est-ce que c'est... Et oui, la poésie questionne sur tout ça.
Moi, je voulais revenir sur une notion qu'on a abordée hors antenne, en discussion, et je trouvais essentiel qu'on revienne dessus, c'est cette notion de compréhension. Parfois, là, je ne comprends pas la poésie, parfois, alors comme une œuvre picturale d'ailleurs, peu importe, ou je sais pas, je suis pas sûr d'avoir compris. Finalement, c'est pas si important que ça, de comprendre ou pas comprendre, ou de tout comprendre, ou de comprendre en partie. peut-être l'essentiel, c'est de comprendre ce qu'on peut comprendre ou ce qu'on veut comprendre.
On comprendra jamais tout dans la vie, de toute façon. On n'aura jamais le temps de tout comprendre. Ça demande un travail infini. Non, la poésie, c'est... Oui, comme je disais, c'est comme quand on regarde un tableau, on n'a pas besoin de s'y connaître. Est-ce qu'il parle? Est-ce que tu l'aimes bien? Tu le trouves joli ou pas? Est-ce que ça te parle? Ça te donne des sensations, des émotions? Est-ce que tu as envie d'aller voir plus loin, d'aller gratter plus loin? Voilà, on fait beaucoup d'ateliers dans les établissements scolaires, les plus jeunes, et eux, ils sont assez neutres dans tout ça, donc c'est assez beau. Et parfois, ils sont juste avec un sourire, voilà. Enfin, juste admirer, et puis peut-être la réflexion se fera plus tard. C'est de la philosophie, hein, la poésie. C'est comme quand on va voir un psy, parfois il nous questionne, sur le moment on comprend pas, puis c'est après. Ça vient. Ah, mais oui, effectivement, là, il y avait quelque chose.
Sauf que vous créez ce cadre aussi, ce temps. Enfin, vous ouvrez cet espace aussi.
À la réflexion.
Enfin, je veux dire, c'est aussi construit. Comme on peut l'avoir, si à un moment on rencontre pas, ou si à un moment dans sa vie quelque chose qui ne peut nous proposer cet nouvel espace, on peut en effet continuer.
Et c'est pour ça qu'il y a des lieux comme le nôtre, voilà. Et d'autres qui s'ouvrent pour amener les gens vers ce chemin. Ouais. Oui, je pense que c'est essentiel, c'est fondamental. On est trop lobotomisés et c'est pas par les écrans qu'on arrive à s'ouvrir et à imaginer des choses et donc à construire notre propre réflexion.
Vous parliez tout à l'heure de ce public d'enfants qui est très réceptif à la poésie. Je sais pas si c'est le public enfant qui est très réceptif à la poésie ou finalement ce mode de raisonnement qui serait de l'émotion plus que de la raison, ou en tout cas de la simplicité du raisonnement. Qui parfois est poétique aussi. Alors c'est pas la seule forme de poésie, hein, bien sûr, mais on le retrouve. Je fais écho à Gauvrage qu'on vient d'écouter. Il y a des choses qui seraient mais presque enfantins dans la façon de l'aborder. On parle d'un bout de table, d'un truc. Enfin, on revient presque à la géographie, là où nous, là où nous on y mettrait déjà des choses plus intellectuelles ou plus échafaudées. Et finalement, la poésie est aussi un côté enfant, sans dire que c'est enfantin forcément, mais il y a un côté enfant.
Ce qu'ils aiment, les enfants, surtout, c'est quand ils se rendent compte que dans la poésie, tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. Pas de ponctuation, pas de majuscules, on met tout en désordre. Ils sont tellement cadrés dans cette direction que quand on arrive, et ça, ils adorent. Et là, on a souvent des pépites de leur part, des choses qui sortent et très naturellement. Et parfois, la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Charlène Damour, directrice de La Factory, vous êtes venue avec plusieurs recueils de poésie, vous nous avez lu deux textes tout à l'heure, Nathalie Caro s'était installée en réclamant la suite, on est obligé d'organiser autrement pour maintenir un rythme dans cette émission à peu près cohérent, mais il est le moment de me retourner vers vous et éventuellement de vous inviter
à
une autre lecture peut-être.
Oui, alors je parlais de Pierre Soletti, édition Les carnets du dessert de lune, il vient de sortir, 36 000 choses à faire avant de rejoindre Pérec. C'est plein de petites phrases comme ça qui touchent tout le monde. Et je vais commencer par la première page. Donc il cite toutes les choses qu'il veut faire avant de rejoindre Pérec. Aimer la poésie, mettre les points à côté des i, ne pas aller trop vite, mitonner sa joie à petit feu, inverser les données, donner le change, changer la donne, avoir le bout du monde sur le goût de la langue, auditionner le silence, écrire à des adresses inconnues sans attendre de réponse, dire un mot d'amour plus gros qu'un sémaphore. Et il y en a plein. Vivre dans une ville qui nous a vu naître chaque jour différent, etc., etc. C'est magnifique. Et ça, voilà, c'est plein de petites phrases qu'on aura envie de noter partout, sur les murs, dans nos carnets, comme ça, pour les répéter pour nous faire du bien. Et puis après, si vous avez encore le temps...
C'est pas Nathalie et Caroline qui diront...
on peut le prendre quand même.
J'ai Henri Alain, on l'accueille à partir de lundi à La Factory en résidence d'écriture, prix Copo du jury de cette année. Une écriture plus lyrique, mais en comparaison avec vraiment le quotidien de notre société. Et ça commence comme ça. Nous fuyons l'amour, nous cherchions l'amour. Souvent, nous nous couchions sous la spirale du ciel et nous entendions filer les phares sur les grandes routes de l'Occident, infatigables routes par lesquelles nous avions tant de fois tourné en rond. occuper les cartes et vérifier que la Terre n'est qu'une petite balle que l'on tient dans sa main. Nous découvrions de nouvelles combinaisons de lettres qui semblaient modelées du sillon des rivières et que nous nous faisions tourner comme des icônes. Nous cherchions ce que nous fuyons par truchement du rétroviseur. Henri Alain aux éditions Blanc Volant. L'épingle acide, la montagne des géants.
Merci.
Merci. Avec plaisir.
Et on sent bien, Charlène, que c'est pas anodin quand vous le présentez. Vous le remettiez sur votre cœur, ce livre. Les auditeurs ne le voient pas. Les auditeurs ne le voient pas, mais c'est.
Mais oui,
on
c'est...
voit bien que ce n'est pas anodin.
Non, voilà. C'est-tu. Voilà, moi, la poésie m'a attrapée et je vais pas la lâcher de suite.
Pour conclure notre échange, il y a quelques rendez-vous à la Factory immanquables, oui. Prochainement. Un petit programme que nous pouvons retrouver. Et j'imagine disponible sur Internet également.
Oui, sur nos réseaux, les réseaux sociaux, et puis sur notre site Internet.
Mais il y a quelques dates. Oui, non, mais il y a quelques dates, j'aimerais bien que vous nous en parliez tout de même.
Donc là, on commence les résidences d'écriture et de création à partir de lundi. Donc on va accueillir des poètes, des poétesses, notamment Henri Alain, donc comme je disais tout à l'heure, Flora Delalande, Lison Leclerc, la compagnie Lumière d'août. Et il y aura donc une sortie de résidence le 17 octobre, le jeudi 17. Prix libre et conscient, ouvert à tout le monde, venez surtout, c'est ça l'important. Et ensuite, ah oui, on a aussi une petite soirée scène ouverte, le jeudi prochain, le 10 octobre. Et là, c'est le moment de prendre le micro. Et voilà, si vous avez des textes à dire ou vous avez envie de prendre l'instrument, c'est vraiment, on a envie d'avoir un moment de connexion tous ensemble autour de la musique, de la poésie et bien d'autres choses. Donc ça, ce sont nos prochaines dates sur le mois d'octobre. Après, il y a des dates, il y a des soirées tous les mois, donc à voir sur nos réseaux.
Sur la programmation, exactement, sur les réseaux. Charlène Damour, vous restez avec nous, bien entendu.
Bien sûr.
Dans un instant, nous aurons Guillaume Poignard, que vous connaissez bien également.
Oui, on est voisins.
À nos micros, exactement, de la Gare Musique de Louviers. Nous faisons une pause musicale juste avant de l'accueillir, et c'est encore une pause musicale proposée par Caro. MPL, c'était Lulu 2. Et pourquoi Lulu 2 ? Parce qu'il y a une histoire à cette chanson.
Oui, Lulu 2, MPL, c'est un groupe de mecs. Ma pauvre Lucette, au début, il s'appelait. Et ils avaient fait une chanson d'amour un peu déçue sur Lulu, une lycéenne un peu fantasmée. Et les années passant, en fait, ils se sont aperçus, ils ont eu des retours de leurs auditeurs, que leur chanson était peut-être un peu trop machiste, sexiste. Donc, ils ont réécrit la version de Lulu en faisant contrition et en disant peut-être que les mots que nous avions mis il y a quelques années ne sont plus vraiment adaptés, mais on garde notre Lulu.
Eh bien, on écoute justement Lulu. MPL, c'est...
Ma pauvre Lucette.
Ma pauvre Lucette.
Tout son cœur, elle avait un refrain plus long que les couplets. Elle parlait de l'ivresse et des premiers malheurs, des amours de lycée. Lulu, c'était une chanson qui parlait d'une fille, d'une âme sœur, d'une amie qu'on n'avait pas eue et qu'on avait inventée comme on fait un film. Elle s'appelait Lulu. Une chanson qui nous a fait douter quand on a entendu tout ce qu'elle pouvait dire, même les choses qu'on n'avait pas imaginées, les plus belles et les pires. Lulu, 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 Lulu. C'était une chanson qu'on ne chantera plus, et dans les ruines de ce que le vent a laissé, on s'est retrouvé là pour contempler la vue et la voir s'envoler.
C'est pas un drame. Il reste la mélodie, 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 pas un drame.
petite Lucette MPL, c'est... pardon ?
Ma pauvre Lucette.
Ma pauvre Lucette, c'est pas ma petite. Ah oui, c'est ma pauvre Lucette. Avec le titre Lulu 2 qui revenait sur le Lulu 1. Merci Caro pour nous avoir attiré l'attention là-dessus. Nous poursuivons avec Guillaume Poignard que nous avons dans notre oreillette. Vous êtes sur la Gare aux Musiques et nous souhaitions discuter ensemble de l'accompagnement des groupes de la scène régionale et également des pop-up parties de ce soir, demain soir et du mois d'octobre. Bonjour Guillaume, comment allez-vous ?
Eh bien écoutez, ça va très très bien. Bonjour à tous.
Et ben voilà,
bonjour Guillaume.
C'est plutôt une bonne chose parce qu'on compte sur vous pour ce soir, hein, bien entendu. Je l'évoquais à l'instant, ce soir, il y a une soirée pop-up qui va mettre en avant deux concerts en particulier, mais surtout les groupes qui auront suivi la résidence sur la saison 2023-2024 à la Gare aux Musiques. En quelques mots, qu'est-ce qu'une résidence et qu'est-ce que ça permet de travailler pour un groupe de la scène régionale ?
Eh bien, une résidence, c'est tout simplement qu'on va mettre l'outil Gare aux Musiques au service de projets de groupe. Et donc, principalement, la résidence, ça se passe sur scène, résidence scénique, donc pour travailler le son, la lumière, la scénographie, éventuellement les décors, l'intégration d'appareils électroniques, voilà, tout un tas de choses qu'on ne peut pas expérimenter un jour de concert, forcément. Et donc là, on prend le temps de travailler, de faire des essais et voilà, de créer un spectacle, tout simplement, dans des exigences, avec une exigence professionnelle.
Et avec aussi le regard d'une équipe professionnelle, celle de la Gare aux Musiques. Il y a vous Guillaume, mais il y a aussi Bertrand et Mathieu qui suivent, qui accompagnent les groupes en résidence.
Tout à fait. On est une petite équipe de trois, donc du pôle culturel de la ville de Louviers. Et donc, on a voilà, chacun un peu nos compétences. Bertrand et Mathieu, techniciens, donc ils vont intervenir essentiellement sur la scène et le côté studio pour d'éventuelles prises de son, enregistrement aussi dans le cours de la résidence. Et moi, sur les aspects plus production, structuration, communication, etc. Et quand on n'a pas ces connaissances ou les compétences en interne, voilà. On travaille aussi beaucoup en réseau avec les autres salles, les autres diffuseurs, tels que la radio Principe Actif, voilà, pour donner toutes ces chances au projet et faire en sorte que ce soit un coup de pouce qu'on espère décisif.
Alors là, on le présente de manière très administrative, très carrée, mais finalement, c'est une vie qui va se passer durant l'année, des choses non prévues également, et puis le fruit de la rencontre entre la Gare aux Musiques et puis le groupe qui vient en résidence.
La question était très très longue.
Alors, je vais la refaire plus courte. Il se passe d'autres trucs quand même dans l'année.
Oui. Chaque projet, je parle de projet plutôt que de groupe et d'artiste, parce qu'on sélectionne ces artistes voilà, sur un projet, et effectivement, chaque projet est sensiblement différent, et tout au long de l'année, on va effectivement s'adapter aussi à ces artistes, à leur calendrier, que ce soit pour, comme je disais, le studio ou la scène. Et c'est aussi l'occasion, quand ils sont en résidence à la Gare aux Musiques, de rencontrer d'autres musiciens amateurs, des musiciens lycéens, voilà, leur expliquer, comme je fais là, un peu en quoi consiste une résidence, à quoi ça sert. Et donc, ils viennent travailler, mais il y a aussi beaucoup de rencontres et d'échanges. Et donc, c'est ça aussi qui fait la magie de ce dispositif, quoi.
Et alors, une fois que la magie a opéré durant l'année, on retrouve les sorties de résidence, qu'on appelle les pop-up parties. Donc, il y en aura une ce soir, hein, ce vendredi, avec dans les groupes qui ont été accompagnés Denver. Ils seront accompagnés de Dubitcho également sur
tout
scène. Mais c'est Denver qui a été accompagné sur la voilà. Saison 2023-2024. Samedi, donc demain, ce sera Vein Valkyrie et puis Salo, qui ont été les deux
tout
accompagnés. accompagner dans le, durant le, l'année. Et puis, il y aura aussi Six Seigneurs.
Le 15 novembre.
Voilà, le 15 novembre, Six Seigneurs, qui a également été accompagné. Et donc, à chaque fois, il y a une sortie de résidence, un concert qui est proposé au public. Alors, c'est pas l'audition de l'école de musique, mais c'est l'occasion. Non, mais c'est l'occasion de voir aussi les groupes une année après sur la scène.
Voilà, c'est ça. Et puis en plus, bon, c'est le principe déjà, la résidence, l'accompagnement dure un an. C'est sur une saison d'octobre à octobre. Et traditionnellement, on termine cette résidence par une restitution publique, donc ces fameuses pop-up parties. Habituellement, on essaie de les faire tenir, voilà, les quatre groupes, deux le vendredi, deux le samedi. En l'occurrence, pourquoi trois soirées? Parce que Six Seigneurs, dans le cours de son année de résidence à la gare, a signé avec un grand tourneur national qui lui proposait sa première grande date ce vendredi, aujourd'hui. Donc on, voilà, on a décalé leur sortie de résidence au 15 novembre et Dobicho, qui n'était pas en résidence, qu'un groupe de Lyon, mais un groupe ami de Denver, viendra ouvrir la soirée très gentiment pour... voilà, qu'on en ait tous plein les yeux, plein les oreilles, donc effectivement en trois parties, et ce sont les premiers concerts de notre saison également, donc c'est la fiesta, on est très content de reprendre les concerts, de réaccueillir tous les spectateurs, de vous accueillir aussi, la radio Principe Actif en direct, hein, de la gare ce soir et demain, ça c'est aussi un grand moment, et donc voilà, c'est l'aboutissement d'un grand travail pour les artistes, et ces pop-up parties sera surtout un grand moment de fiesta ce soir à la Gare aux Musiques pour tout le monde.
C'est ça, c'est on sent la philosophie de la Gare aux Musiques et de l'équipe notamment. C'est pourquoi faire en deux soirées ce qui rentrerait en deux soirées, on n'a qu'à le faire en trois.
Bah, prolongeons le plaisir.
Exactement. j'ai envie de dire. C'est exactement ça. Non, mais il y a aussi ça, parce que je me rends compte en échangeant, on a déjà eu des échanges moins formels, on va dire, et c'est vrai que effectivement, il y a toute le sérieux du travail qui est effectué. On parlait accompagnement, on parlait dispositif, on parlait tout ça, mais il y a au-delà de ça la patte Gare aux Musiques, l'humain qui rentre en ligne de compte, et à partir de là, la géométrie peut bouger un petit peu et finalement laisser la place à l'humain, au vivant. En tout cas, c'est votre spécialité quand même à la gare.
Oui, bien sûr. Bah, tout cet accompagnement, tout ce qu'on peut faire auprès des artistes, toutes nos actions, il y a toujours l'artiste et les œuvres au milieu. Voilà, c'est pas simplement nous, on a notre petite boutique, notre petite usine, et vous suivez chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Non, bien sûr,
on s'adapte. Il faudra tourner la page à la clochette.
Et voilà, et puis notre plus grande satisfaction à nous, c'est de pouvoir amener ces artistes vers la professionnalisation, enfin voilà, faire en sorte que ça devienne leur activité à plein temps et qu'ils puissent développer vraiment leur univers au maximum.
Très bien, pop-up party du coup ce soir vendredi 4 octobre avec Dobicho, ça sont les invités, Denver qu'on retrouvera sur la scène qui a été accompagné, samedi 5 octobre Vain Valkyrie et Salo, et puis c'est quand, en novembre, 15 novembre c'est ça pour Six Seigneurs?
Le 15 novembre,
voilà, 15 novembre.
Vendredi 15 novembre.
Et alors, puis
petite précision pour les retardataires, les gens qui n'auraient pas anticipé, ce soir Denver et Dobicho c'est complet, c'est totalement complet à la gare. Par contre, il reste des places pour demain, soirée qui sera un peu plus rock stoner metal. Et bien sûr, la billetterie est ouverte aussi pour le 15 novembre. Donc, n'hésitez pas, ruez-vous sur les places. En plus, elles sont gratuites.
Ah bah, on a l'habitude de dire chez Principe Actif que quand c'est gratuit, c'est dans nos prix. Et je me permets de glisser parce que c'est quelqu'un qu'on suit nous à la radio. Il y a également la release de Mounia qui va se faire sur ces deux mois,
oui,
qui viennent, au mois de novembre, je crois. Je dis des bêtises, peut-être.
Non, c'est dans deux semaines, c'est le 18 octobre.
Voilà, 18 octobre.
Vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur son nouvel album Faces dans l'autre très bonne émission de Principe Actif Tour de Piste. Je ne sais plus si c'était avant-hier soir, je crois.
C'était mercredi soir, oui, tout à fait.
Ouais, voilà. Et donc, c'est une artiste aussi qu'on suit depuis assez longtemps. On aime beaucoup son univers. Et donc là, elle sort son premier album. Et c'était assez naturel de l'accueillir voilà, pour cette sortie d'album avec le groupe Team en première partie.
Exactement. Et ça, ce sera le 18 octobre. Merci Guillaume.
Et ce sera encore gratuit parce que le but, c'est que justement, il y ait un maximum de monde qui vienne découvrir l'univers de ces artistes. Voilà, il n'y a pas que la télé, il n'y a pas que TikTok, il y a aussi, voilà, dans la vraie vie, des artistes super intéressants et des fois juste à côté de chez nous. Quoi.
C'est ça. Merci beaucoup Guillaume d'avoir échangé avec nous sur ces résidences et les pop-up parties. Nous, on se retrouve tout à l'heure. Hein. Nous, on devrait arriver vers 18h30, 19h. Je gère D'accord, mon alors. Programme comme ça en live.
D'accord, eh ben écoute, pas de souci, on vous attend avec plaisir. La petite scène du hall vous attend, elle est prête.
Eh ben super, on y est bien à cet endroit. Merci beaucoup Guillaume, à tout à l'heure.
Merci à vous et bonne journée, à tout à l'heure.
Au revoir. Au revoir.
Salut.
Eh ben voilà, ça nous amène. Oui, ben je vois Nathalie faire des yeux comme ça. Ben oui, ça nous emmène typiquement sur avoir du retard et nous arrivons directement à l'agenda. Mais parce que j'aime bien, eh ben j'avais envie de mettre une virgule avant d'arriver à l'agenda.
Donc on en présente un. Sujet à l'agenda.
C'est ça, on va pas avoir le temps de faire plus. Caro.
Oui, moi je voulais parler de Jeff Mills, qui est un des créateurs, pape de la musique électronique, venu de Détroit directement. Il n'a que deux dates en France, dont une à Évreux. C'est un moment un peu historique, c'est au Cube. Et ça commence en fin d'après-midi à la médiathèque par une conférence sur justement la créativité et le mouvement noir américain à Détroit. Ça se poursuit après avec une rencontre avec Jacqueline Coe au cadran et ça se termine par le concert de Jeff Mills avec l'artiste palestinienne Camilla Joubran.
Rappelle-nous la date.
23 octobre. Notez-le sur vos agendas.
Mmh. Ouais, pour faire juste un écho avec la musique, c'est
l'expo. Alors c'est du Jeff Mills hein, qu'on entend juste derrière. Ouais, je me permets. Bah oui, qu'on dise de quoi on parle. Oui. On peut le laisser glisser parce qu'on est super en retard.
On est super à la bourre.
Ouais, c'est ça. Mais on avait dit rap de poésie et égal retard à la fin.
Ah ouais, voilà, on assume. L'exposition musicienne au musée des instruments à vent de la Couture Boussée. En fait, c'est une exposition qui va retracer le rôle des femmes dans la musique française, qui est largement encore trop méconnue, compositrice, chanteuse ou instrumentiste. De l'histoire de la musique à aujourd'hui, la place des femmes musiciennes dans l'histoire de la musique. D'ailleurs, ça fera peut-être un petit sujet prochain d'émission. On en rediscutera.
Ok. On va pas avoir le temps de faire la réunion de préparation de la prochaine émission maintenant. Mais c'est l'idée, elle est là. On se la met dans un coin. Ouais. Non, mais c'est le genre de moment comme ça où d'un seul coup, on est très prolifique et puis on aurait un milliard de choses à dire, à faire, à compléter avant la fin. Mais non. On va faire ça. Une autre date, une autre info.
On s'arrête là.
Dans les tuyaux, exactement.
Je voulais quand même parler de Génération Durable.
Voilà.
C'est en ce moment, ça a commencé le 1er octobre, c'est sur tout le territoire eurois et c'était une manifestation à retrouver sur les réseaux aussi, si vous voulez avoir le programme complet.
Eh ben très bien, c'est noté, bien entendu. 30 ans de la médiathèque le 19 octobre, on est obligé de le dire, on le glisse comme ça. Prenez les infos, c'est les 30 ans de la médiathèque, il y aura plein de choses à voir, à découvrir et à découvrir, voilà, tout simplement. On arrive au film, Nathalie.
Eh bien, je vous propose.
Comme on a bâclé l'agenda. Pardon. On arrive au film, du coup, Nathalie.
On va essayer de bien finir, alors. Voilà. Alors, Maya, donne-moi un titre. C'est le dernier film de Michel Gondry. Et là, c'est l'histoire de Maya et son papa. En fait, Maya et son papa vivent dans deux pays différents. Et pour maintenir le lien avec sa fille, et continuer justement de lui raconter des histoires, il lui demande chaque soir de lui donner un titre. Et en fonction du titre que lui donne Maya, son enfant, il va faire un dessin animé qu'il va lui envoyer. Et aujourd'hui, c'est vraiment tout le chemin, toute l'histoire de Maya, parce que évidemment, à chaque fois que Maya donne son titre, elle est l'héroïne de l'histoire qu'elle demande à son papa, qui est loin. Et là, en fait, Michel Gondry nous restitue toutes les histoires que Maya, qu'il a créées pour Maya, sa fille, en fonction du titre qu'elle lui a donné. Bande annonce.
Et nous, on se retrouve le 1er novembre pour le Scène de vie, vite scène du mois de novembre. Le 2 novembre ? Non, c'est pas le premier,
le vendredi. Premier.
Tiens,
non,
le 2 alors. Bon,
ouais. Ou le premier.
Bon, vous trouverez bien, c'est un vendredi à midi et demi. Maya, donne-moi un titre.
Ça, c'est mon papa. Et Maya, c'est ma fille. Quand j'étais à l'autre bout de la planète, je lui ai demandé de me donner des titres d'histoire.
Tiens, donne-moi le titre pour ton prochain dessin animé.
Et j'en ai fait des dessins animés, dont voici la bande-annonce. Mais c'est quoi une bande-annonce ? Eh ben c'est quand on raconte le film en une minute.
En une minute ? Mais on va rien comprendre.
Mais non, on va pas l'accélérer. On va le découper avec des ciseaux et le recoller avec du scotch. Ça s'appelle du montage.
Et ça fait même pas mal. On est dans un film de papa. Tout est en papier. Regarde.
Il y aura de l'action.
Oh les pattes !
Il y aura des courses-poursuites, des tremblements de terre, des sirènes, du ketchup et de l'émotion.
On n'a pas dit le titre ?
Ah oui, non, zut, t'as raison. Maya, donne-moi un titre. C'est ça, le titre.